Saint Esprit de Dieu, merci. Merci parce que tu as permis, tu m'as rendu capable de préparer ce temps de prière. Tu m'as conduit dans l'examen et l'analyse de ce temps et de cette porte de saison d'hiver. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'as invité. Tu m'as révélé la pensée de Dieu. Tu m'as conduit haut dans ma quête et dans ma recherche pour établir, pour préparer d'avance ce temps de prière. Ce temps où je me présente devant l'Éternel Dieu mon Père, en Jésus-Christ mon Seigneur, pour que s'ouvre pour moi la porte de cette saison d'hiver, en ce jour du 21 décembre, en ce jour de solstice d'hiver. Oui, tu nous enseignes sur la possession des portes, les portes des saisons. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ton éclairage. Merci pour ta visitation. Merci pour ton invitation. Merci pour ce que tu m'as enseigné en ce jour. Merci pour l'orientation que tu m'as donnée pour saisir ce jour au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Remplis-moi, conduis-moi. Par le maître de toutes choses. Rendons gloire à Jésus et que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, je saisis l'opportunité de ce temps de prière aujourd'hui pour m'adresser aussi à vous, pour que ce soit un temps d'enseignement aussi sur la possession des portes, en l'occurrence la porte de la saison d'hiver, pour ce solstice d'hiver. Dans le nom puissant de Jésus, en répondant à l'instruction que m'a donné l'Éternel, à notre alliance de partager mon pain avec ceux qui ont faim. Je veux partager avec vous aujourd'hui, à l'occasion de cette prière, cet enseignement, ces révélations que l'Esprit de Dieu m'a accordé, cette préparation que j'ai faite, que ce soit aussi en bénédiction pour vous, mes frères, mes sœurs, pour vous édifier, pour vous enseigner, à préparer les temps de prière devant l'Éternel, à saisir les portes de bénédiction. Alléluia. Le solstice d'hiver, c'est un temps où la durée des jours est la plus courte et la nuit la plus longue, particulièrement ce qui concerne l'hémisphère nord et l'inverse pour l'hémisphère sud. Je fais cet enseignement, je suis en France, et c'est de l'hémisphère nord. Et aujourd'hui, c'est le jour où le temps de jour est le plus court et le temps de nuit est le plus long. Et ça marque le commencement de la saison d'hiver qui part du 21 décembre au 20 mars. Le terme solstice vient du mot latin solstitium, qui est composé de deux mots. Sol comme soleil et sistere qui veut dire s'arrêter, retenir. Le solstice se définit comme la période où l'inclinaison de la terre fait en sorte que la déclinaison des rayons de soleil sur l'orbite terrestre reste constante et son mouvement n'est presque plus visible vers le nord ou vers le sud. Son mouvement semble s'arrêter avant de changer de direction. Tout se passe comme si au moment du solstice, le temps s'arrête. Nous savons en géographie que la planète Terre, le globe terrestre, tourne autour de l'axe du monde, tourne autour de l'axe du globe terrestre, tourne sur lui-même et tourne autour du Soleil, ça nous le savons. Et pendant qu'il tourne autour de lui-même, c'est ainsi qu'en 24 heures, il présente toute sa façade. Tous les points sont présentés au Soleil, parce que nous savons scientifiquement maintenant que le Soleil, lui, ne bouge pas, il est fixe. Et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. La Terre en particulier tourne autour du Soleil et présente toute sa façade en 24 heures au rayon du Soleil. Et en fonction de son plan d'inclinaison, en un moment ou en un autre, les points de la planète ne sont pas présentés de la même façon au rayon de soleil qui arrive. En des saisons de solstice, la planète est positionnée de façon à ce que, pour les pôles, les rayons de soleil n'atteignent pas la limite de l'exposition, ce qui fait que certaines façades, certaines inclinaisons n'atteignent pas la même répartition entre le jour et la nuit à certains points de la Terre. Ce qui fait que la durée du jour, c'est-à-dire la durée de l'éclairage du soleil, n'est pas le même dans certaines régions par conséquence. S'il n'y a pas de soleil, il y a l'obscurité. Donc, si le temps de soleil est court, le temps de l'obscurité devient plus long. Donc le solstice d'hiver, à un point, c'est le moment où l'inclinaison de la Terre fait en sorte que l'on reçoive moins de temps d'éclairage de soleil et que l'on est plus dans l'obscurité. Cette déclinaison commence au moment de l'automne, à la fin, au début de l'automne, début du mois de septembre, ça commence à baisser pour atteindre son paroxysme en ce jour de solstice d'hiver. Donc c'est le jour où l'éclairage du soleil est le moins long. Donc on dit que le jour est plus court qui concerne l'hémisphère nord, et la nuit est longue. Mais tout se passe en cette période comme si le temps s'arrêtait. Et le temps va s'arrêter pendant un certain nombre de jours, 3 ou 4 jours. Et c'est le temps où le processus de la création se repositionne pour inverser le cours, se repositionne pour pouvoir recommencer de gagner sur la nuit, que le jour commence à regagner sur le temps de nuit et que les jours recommencent à être longs et que les nuits recommencent à se raccourcir. Et ça va s'élancer comme ça jusqu'au prochain solstice, qui est le solstice d'été, où c'est les jours qui sont les plus longs et les nuits les plus courtes. Mes frères, mes sœurs, je veux attirer votre attention sur ce processus d'arrêt du temps pendant lequel la création en elle-même, l'Esprit de Dieu créateur, remet les pendules à l'heure, repositionne des choses pour pouvoir re-rentrer dans une phase de conquête. C'est important de comprendre ce processus de solstice. C'est important de comprendre ce qui se passe dans les sphères célestes en cette saison, en ce temps précis, en ce moment précis de solstice d'hiver. Pourquoi est-ce qu'il est important de saisir cette porte, la porte où les puissances célestes rentre en ligne de phase pour corriger les déformations, pour réajuster les choses, pour repositionner le cours des choses, pour repositionner la prééminence de la lumière sur l'obscurité. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre ces choses pour marquer l'importance pour les enfants de Dieu de prier et de posséder les portes des temps et des saisons. Parce que sans ces actions-là, le plein potentiel de la semence divine, de la quintessence divine qui est en toi, en moi, ou qui peut agir pour toi, pour moi, ne pourra pas se manifester. Des choses sont prévues dans la création pour nous, en des temps précis. Nous savons que la Bible nous parle des temps marqués. La Bible nous dit qu'il faut un temps pour chaque chose. Et le temps, des temps comme ceci, comme celui du solstice d'hiver, est important. Parce que ça permet une correction des choses en nous-mêmes. Il est important que ça soit saisi, mes frères et sœurs. Je tenais à expliquer cela pour que vous percevez la quintessence même de l'œuvre de la création et de son impact sur nous. Alléluia. Ce solstice d'hiver, ça ouvre une saison, la saison d'hiver. Pendant cette saison, le soleil qui, depuis l'équinoxe d'automne, recule devant l'avancée de la nuit, a atteint sa limite de compression. Et comme je vous l'ai expliqué, je rentre dans un processus, je change de cours. Et il va entamer en cette fin de mois de décembre, jusqu'à la fin du mois de décembre, va entamer un processus de reversion. Et il rentre dans une phase, comme je vous expliquais, de reconquête, qui est une phase de faveur. C'est une saison de faveur. C'est une saison qui marque pour nous, pour la création entière, pour les fils, un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui commence et un nouveau processus qui se met en cours. Sur la base de ce verset, mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans la phase de prière pour cette partie que nous avons développée, je veux vous amener à lire dans Romains 8. Psaume 8, versets 19 à 23. Nous allons lire. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Alléluia. Ici, Paul nous révèle et nous enseigne que l'œuvre de grâce que nous saisissons en Jésus-Christ n'est pas seulement notre fait humain, mais pas seulement pour les individus. Il nous explique que toute la création attend de rentrer dans la quintessence de cette grâce. Car Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu mourir à la croix pour toute la création. Pour nous, bien sûr, les hommes, mais pour toute la création, car toute la création doit être réconciliée à Père. Et tout cela doit rentrer dans une plénitude en Jésus-Christ. Pour que ce que nous espérons, ce que nous attendons, Paul nous parle de la rédemption que nous espérons, la rédemption que nous attendons, de l'adoption, soit effective. C'est valable pour nous, c'est valable pour toute la création aussi. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre que pour prier, nous avons besoin de parler du soleil, besoin de parler de la lune, besoin de parler, tout à l'heure nous parlerons de la nature même, des arbres, des plantes, des eaux, de la terre, oui, tout ça. Parce que toute la création a besoin d'être manifestée en Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, il nous amène tous à la réconciliation à Père. Et nous, qui avons la prééminence dans tout, sur toute la création, Paul nous explique que c'est à nous de conduire celui de la création, à se manifester comme fils et à déclarer et à amener toute la création dans cette action, dans cette œuvre de rédemption aussi. Alléluia. Nous allons lire aussi ce que David même déjà nous disait dans les psaumes. Dans psaume 19, versets 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oh, quelle vérité. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. Tout communique. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. Sa parole nous dit que Dieu a fait toutes choses véritablement pour sa gloire. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. Les jours se suivent, se communiquent. Les nuits se suivent, se communiquent. Parlent un langage qui est entendu, qui peut nous sembler peut-être à nous bizarre quand on ne va pas en esprit chercher la compréhension de ces choses. Mais c'est un langage qui ne sont pas seulement des paroles, qui ne sont pas entendues, des paroles qui se perdent dans l'air. Mais la parole de Dieu nous dit, psaume nous dit, que leur retentissement parcourt la terre, toute la terre. Que les accents de ce qui est dit, de ce qui est fait, vont aux extrémités du monde. Et l'Éternel jusqu'au bout du monde a bâti une tente pour le soleil. C'est vous dire l'importance. Nous parlions tout à l'heure de solstice et c'est encore l'influence du soleil sur la terre et par conséquent sur toute la terre, toute la création qui existe sur la terre. C'est une porte importante. Les solstices, les équinoxes, ce sont des portes importantes. Elles ne sont pas fictives, ce n'est pas de l'imagination. C'est des choses qui sont concrètes, mes frères et mes sœurs. Parce que ces processus-là ont été mis en œuvre par l'Éternel Dieu notre Père pour servir à quelque chose. Sur la base de ces versets, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, de prier, de commander à la création, de prier pour invoquer sur la création, pour commander à la création, d'agir dans la plénitude de leur bon fonctionnement en ta faveur. Je vais t'inviter à annuler par tes proclamations tous les ordres contraires libérés par quiconque en ta défaveur et en la défaveur des tiens, en la défaveur du corps du Christ, en la défaveur de ton assemblée dans laquelle tu es. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, en ce moment, au nom de Jésus, mon Sauveur et mon je me lève et je prends autorité au nom puissant de Jésus, en qualité de fils, pour parler à la création. Toi, soleil, à qui l'Éternel a battu tant aux extrémités du monde. Toi dont les rayons éclairent la terre, toute la terre. Toi dont les rayons définissent les temps et les saisons. Toi dont les rayons en ce moment avaient regressé aujourd'hui marque un temps d'arrêt pour se repositionner. Oui, toi, soleil, agis dans la plénitude de ta fonction. Toi qui as été créé par l'Éternel du monde pour présider au jour, pour éclairer la terre, agis dans la quintessence, dans la plénitude de ton fonctionnement maintenant. Réentame ta reconquête du jour sur la nuit, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de Christ qui te prient, dans la vie du corps du Christ qui se lève, qui cherche, qui prie en Jésus-Christ, dans la vie de ceux qui cherchent l'Éternel. Oui, et dans la plénitude de ton action sur eux. Au nom puissant de Jésus, toi, terre, agis et fonctionne dans la réceptivité des rayons de soleil. Agis et fonctionne dans la plénitude de ton mécanisme de vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, en cette saison, toi, la terre, que tu reçoives la plénitude de la lumière. Que le temps de régression de la lumière s'achève sur et que recommence la plénitude de l'éclairage du soleil sur toi. Que le jour recommence à gagner sur la nuit et que les ténèbres régressent dans le nom puissant de Jésus. Oui, je me lève et je condamne tout les œuvres des ténèbres, les œuvres des méchants, les œuvres des sorciers, des sataniques qui veulent manipuler le soleil, la terre, la lune à mes dépens au nom puissant de Jésus. Qui veut vous amener à un fonctionnement qui ne répond pas au plan de Père, qui ne répond pas aux orientations initiales de Père. J'annule ces œuvres dans le nom puissant de Jésus. Je condamne leurs œuvres au néant, au nom puissant de Jésus. que tout ce qui a été libéré, commandé, proclamé par les méchants et qui œuvrent en la défaveur de mes enfants, en la défaveur du corps de Christ, en la défaveur de nos assemblées. Ô Père éternel, que toutes ces déclarations soient nulles et sans effet maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel. Que quiconque se lève pour manipuler les éléments du ciel, pour manipuler le soleil, manipuler la terre, manipuler la lune, et pour agir négativement dans la vie, Seigneur, qu'il soit frappé au Père éternel par ta force et par ta puissance. Que son bras soit brisé au Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Et que toutes les paroles de condamnation proclamées, ô Seigneur, soient des paroles de malédiction pour sa propre vie. Oui, Père éternel, parce que le méchant ne doit pas vivre. Ô Dieu, en ma qualité de serviteur, je fais jouir mon héritage maintenant et je condamne toute langue qui se lève pour me condamner par quelque libation, par quelque proclamation que ce soit. Et que toute arme qu'il forge au Seigneur Dieu Père Tout-Puissant soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que toute leur œuvre soit vouée à l'échec en cette saison au Seigneur Dieu Père Tout-Puissant de repositionnement. Mes frères et mes sœurs, je veux vous inviter à prier pour votre repositionnement. En cette saison où les choses se repositionnent, où un cycle s'achève et un cycle, nouveau cycle recommence, priez pour votre repositionnement. Priez pour être véritablement positionné dans ce axe de nouveau départ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, en cette saison, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, j'imprime, Seigneur, dans ma vie et je m'inscris, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, dans ce processus de nouveau départ, dans le nom de Jésus. Oui, Père, je prie pour mon repositionnement en Jésus-Christ, dans des plans nouveau que tu instaures dans la vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour la quintessence de cette faveur du nouveau départ sur ma vie dans le nom de Jésus. Oui, éternel. Je prie, Seigneur, pour la reconquête, ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. La reconquête, Seigneur, de ta lumière sur ma vie. Je prie pour la régression, ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, des ténèbres sur ma vie. Oui, en cette saison, au Seigneur Dieu de miséricorde, je prie pour mon élargissement. Je prie pour l'accomplissement de tes promesses, Seigneur, dans ma vie. Je prie pour cette saison de nouveau départ, au Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Nous allons poursuivre cet enseignement et cette prière sur la possession des portes, des saisons, notamment la saison de l'hiver, en ce mois de décembre. Nous voyons que l'hiver est un mois qui couvre, on va dire grosso modo, 4 mois. Par de mi-décembre, s'achève mi-mars, à peu près, oui, et elle est donc à cheval sur 4 mois, elle va prendre les caractéristiques de cette période-là, dans le souci de pouvoir véritablement prier convenablement pour saisir toute cette saison hein, nous allons parcourir, nous allons essayer de voir les choses un peu de plus près sur chaque mois, l'impact, l'incident spirituel que ça nous révèle pour pouvoir faire des prières qui soient ferventes, faire des prières qui soient efficaces, faire des prières qui s'appuient sur des choses concrètes. N'oublions pas que nous sommes en train d'asseoir prophétiquement quelque chose. Quand on dit on saisit les portes d'une saison, c'est qu'on installe, on instaure, on fixe des proclamations dans nos vies sur cette période-là. Et on ne peut pas fixer au hasard n'importe quoi. On doit pouvoir le faire sur la quintessence des choses qui se font sur le plan naturel comme sur le plan spirituel. Les choses qui sont prévues de par la création elle-même, de par les plans de Dieu, les choses qui sont prévues, les choses qui sont programmées ou pas, ou les choses qui sont posées par les hommes, par les systèmes, par par Babylone, par ce qui nous entoure et qui, de près ou de loin, influence nos vies. C'est sur ça que nous devons nous appuyer pour pouvoir faire vraiment des prières ferventes. Et c'est dans ce cadre que j'ai pris le temps d'interroger le Saint-Esprit, de me conduire dans cette étude de cette période-là pour pouvoir saisir ce que nous allons ensemble voir maintenant, nous attarder dessus maintenant, d'un mois sur un autre. J'ai envie de dire que dans ma quête de l'éternel, la face de l'éternel, dans ma soif de la connaissance de sa parole, dans ma soif même de le chercher, ce Saint-Esprit de Dieu m'a donné une conduite de travail à faire et l'éternel m'a promis que chaque fois que j'aborderai cette méthode de travail avec lui, il se révélerait à moi et ça, je ne suis pas déçue parce que vraiment depuis que j'évolue avec le Saint-Esprit de cette façon, je suis éclairée, je suis guidée, je reçois des révélations et ça me permet de comprendre, ça me permet de voir, d'avoir la clarté de ce que Dieu me révèle, de ce que la parole de Dieu me révèle, de ce que l'Esprit de Dieu veut que je saisisse. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Je ne pense pas que ce soit exhaustif, que ce soit la vérité. Non, je vous partage ce que j'ai reçu de Dieu, la façon dont je comprends la révélation de la parole de Dieu, les instructions de Dieu pour la saison. Et je partage avec vous. La parole de Dieu nous dit qu'il faut considérer ce qui nous est révélé, afin que vous également, vous puissiez utiliser ou exploiter ces révélations-là dans votre propre méditation, dans votre propre quête, pour avoir les précisions que l'Esprit de Dieu met en vous dans la saison, pour enrichir votre vie spirituelle, votre marche spirituelle. Voilà le but qui est fait. Moi, j'ai fait ce travail pour prier personnellement, moi, pour cette saison, pour saisir en fonction de ce que je comprenais, ce que l'Esprit de Dieu me révélait. Et c'est ça que j'ai envie de partager, je le disais. Donc, nous allons regarder sur le mois de décembre, sur le mois de janvier, sur le mois de février et un peu sur le mois de mars, ce qui, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, apparaît comme étant des points d'importance, des points qui ont une incidence sur nos vies, des choses sur lesquelles nous devons nous arrêter, nous attarder et agir convenablement, selon la parole de Dieu, anticiper pour pouvoir limiter ou nous opposer ou agir au nom de Jésus pour pouvoir limiter l'œuvre du malin sur nos vies. Tout cela, ou que nous devons sceller dans le sang de Jésus pour pouvoir rentrer dans la bénédiction, rentrer dans la jouissance, rentrer dans la possession véritable de cette action, de cette programmation sur nos vies. Pour le mois de décembre, donc, le mois de décembre, c'est le 12e mois du calendrier chrétien, ce qu'on appelle le calendrier grégorien. C'est le 12e mois. Mais c'est aussi cette période, ça correspond au 10e mois du calendrier juif. C'est important que nous fassions ce parallèle parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte spirituel. Et un acte spirituel chrétien doit s'accorder avec la pensée de Dieu par rapport à Paul. Le calendrier grégorien a été fait par les Romains. Et le catholicisme étant basé sur Rome, a pris ce calendrier parce que quelque part politiquement aussi, le calendrier civil s'accorde un peu avec cet alignement de mois. Ils ont des raisons pour ça. Mais si nous voulons rester dans la quintessence de la portée spirituelle, véritable, nous devons nous projeter sur le calendrier juif, le calendrier hébraïque, qui est un calendrier lunaire, qui lui démarre au mois de mars, comme premier mois de l'année, dans le mois de la Pâque, comme premier mois de l'année, et qui donc nous amène ce mois, ce 10e mois, ce mois de décembre qui correspond au 10e mois de ce calendrier. Et quand j'allais regarder pour étudier, rechercher dans les écrits qui existent, la Bible, l'impact ou l'importance de ces mois, des événements qui se passent ce mois-là, sur le plan spirituel comme sur le plan naturel, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a semblé importante à prendre en compte dans cette possession de porte. C'est par rapport au 10e mois de l'année juive. C'est le mois de Tevet. Et en lisant les écrits, les textes, les commentaires de hébraïque, je me suis rendu compte que sur ce mois de Tevet, il y a ce que l'on appelle le jeûne du 10 Tevet, le jeûne que l'on fait sur le mois de décembre, qui est une prescription en cours dans la foi juive, dans le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, et qui se rapporte à quelque chose de particulier, qui se rapporte à une recommandation que l'Éternel donne au peuple par rapport à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et des événements qui ont conduit à la destruction du temple et à l'exil du peuple. Nous savons que le temple qui a été détruit à cette période-là n'a plus jamais été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Et l'exil du peuple juif à ce défait. Cela m'a semblé important parce que ça révèle une caractéristique qui nous ramène jusqu'à Zacharie et où une promesse de l'Éternel est importante. Nous allons, pour étayer ça, nous allons lire trois passages. Dans le livre de Rois, Rois 2, dans le livre de Deux Rois, en son chapitre 25, nous allons lire les versets 1 et suivants, qui campent un peu le départ de cette de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, vous voyez donc que ça correspond bien à ce mois de Tevet, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour de la ville. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. C'est-à-dire la ville fut assiégée pendant 2 ans. Et le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuient de nuit par le chemin de la porte entre deux murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en présence, en sa présence, c'est-à-dire en présence de leur père, le roi Sédécias. Puis on créva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Voilà. C'est une histoire terrible, ça. Mais c'est une histoire qui s'est passée. Dans ce même temps que cette histoire s'est déroulée, nous allons revenir dessus pour voir un peu les événements, les caractéristiques des actions précises que cette histoire nous révèle. Jérémie, nous sommes dans la période du roi Jérémie, du prophète Jérémie, pardon, du prophète Ézéchiel aussi. Nous sommes dans cette période où certains avaient même déjà été attrapés, comme Daniel et ses 4 amis, parmi les jeunes qui avaient été attrapés déjà, pour amener en exil à Babylone. Nous sommes dans cette période-là. Et nous savons, pour ceux qui lisent la Bible, à quoi a consisté le ministère de Jérémie particulièrement. Nous savons que c'était un ministère prophétique qui avertissait le peuple des désirs de père, qui les mettait en garde contre les abus de rébellion, les abus de désordre qui régnaient à Jérusalem à cette époque. Jérémie avait déjà averti le peuple du temps de Sédécias, du roi Sédécias. Jérémie avait déjà averti le peuple de plusieurs fois de la colère de l'Éternel qui allait s'abattre sur le peuple et Jérusalem. Il les avait déjà avertis du risque de la destruction du temple et de l'exil du peuple. Jérémie avait déjà prophétisé cela, mais personne ne l'écoutait. Le roi, comme tous les autres, tout le monde était dans un grand désordre qui régnait, une grande désobéissance, et même les messagers de Dieu n'étaient plus écoutés. Et si les messagers de Dieu ne sont plus écoutés, ça veut dire que Dieu n'est plus écouté par le peuple. Jusqu'à ce que l'Éternel mette en exécution
la punition qu'il avait prévue pour le peuple à cet effet-là. Dans le même temps, l'Éternel a pris la peine de montrer un songe à Ézéchiel, parce qu'il avait établi Ézéchiel comme sentinelle de ce peuple, et lui avait dit, Ézéchiel, ce que je te révèle et tout, tant que tu le déclareras au peuple, et qu'ils ne le fassent pas, leur sang ne retombera pas sur toi. Mais si je te montre quelque chose et que toi tu ne le dis pas au peuple, je vais les punir et leur sang retombera sur toi. Donc Ézéchiel était une sentinelle particulière. Les ministères, les gens sont... Les ministères peuvent être identiques, on appelle Jérémie prophète, on appelle Daniel prophète, on appelle Ézéchiel prophète, mais le contenu de la mission de chaque prophète, ce n'est pas identique. Parce que Dieu a des appels différents pour les uns et les autres. Les missions qu'il confie aux uns et les autres sont différentes. À Ézéchiel, dont il y a ce même jour, il lui a fait parler en songe et pour lui faire voir d'avance tout ce qui allait se passer, tout ce qu'il avait programmé qui se passerait. C'était pour qu'il avertisse le peuple, pour que le peuple se répande au moins, pour que le peuple prenne conscience de ses erreurs, pour que le peuple revienne à lui. Et ce qui est important de noter dans ce passage, c'est Ézéchiel 24, dans les versets 1 et 2, c'est que la 9e année, le 10e jour du 10e mois, vous voyez que ça correspond exactement à ce qu'on a lu tout à l'heure, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Et effectivement, le roi de Babylone, avec toute son armée, était en train d'approcher pour assiéger la ville de Jérusalem. Et il prend la peine, on ne va pas le lire, pas nécessaire, il prend la peine dans les versets 3 et suivants. Il dit, propose une parabole à la famille des rebelles et dit-leur, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel place, il place sa chaudière et verse-y de l'eau. C'est-à-dire, je passe à sa sanction. L'Éternel est en train de passer à l'exécution de la sanction qu'il avait proclamée par rapport à votre têtutesse, par rapport à votre rébellion, par rapport à votre refus d'obéissance, par rapport à votre refus d'observance de mes lois et de mes règles. Ce qui est encore intéressant, c'est que au verset 13, à partir du verset 13, l'Éternel dit, le crime est dans la souillure parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Écoutez ça, c'est vraiment profond. C'est-à-dire l'Éternel est tellement en colère par rapport à son peuple qu'il refuse même la repentance. Il dit, j'ai voulu le faire, tu ne l'as pas fait. Et maintenant tu ne le seras plus jusqu'à ce que toute ma colère se soit assouvie sur toi. Jusqu'à que tout ce que j'avais programmé qui vont être fait, ce sera fait. Oh, mes frères et mes sœurs, que cela ne nous arrive pas. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire la sanction, cette programmation est faite, elle est entérinée, Ézéchiel, tu peux le dire au peuple. Je commence l'application de ça aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Je ne reviens pas dessus. Il finit parce qu'il est Dieu. Dans son verset, à partir B du verset 14, il dit, On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que les uns par rapport aux autres, la sanction est générale parce que tout le peuple était dans cette rébellion. Mais les uns par rapport aux autres, les actes que vous poserez par la suite, ceux qui reviendront à moi, ceux qui se repentiront, ceux qui changeront la manière de faire, etc. Je jugerai à ce moment-là, en fonction de cette conduite. Dans le même cadre, il est important de noter un troisième passage. Cette sanction-là, libérée sur le peuple juif, rebelle, le temple a été détruit, le peuple a été mis en exil à l'image de son roi, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a eu la chute du gouvernement de Jérusalem, on peut dire ça comme ça, et dans l'opprobre, et dans l'esclavage, sous les chaînes, l'autorité du peuple a été amenée en chaînée. Ses enfants ont été sauvagement assassinés sous ses yeux. Et il a été amené presque comme un esclave lié de chaînes dans les prisons de Nebuchadnezzar. Cette sanction, cet état d'exil a duré, a perduré jusqu'au temps de Zacharie comme prophète. Et quelque chose de particulier apparaît ici, dans Zacharie 8, à son verset 19. Nous allons le lire aussi. Nous constatons, lorsque l'on lit la totalité de vous pouvez le lire, lire la totalité de Zacharie 8, nous nous rendons compte que l'Éternel est encore en train de reprocher les mêmes choses à ce peuple en exil. Il est en train de leur reprocher les mêmes choses. Il les invite encore à écouter les prophètes. Il voit toujours que le peuple, malgré tout ça, continue à être rebelle à ses instructions, à ne pas tendre l'oreille pour écouter les instructions de Dieu, à ne pas écouter les messagers qu'il envoie, à ne pas obéir à ses instructions. Mais il leur dit quelque chose de particulier à ce moment-là. Il dit, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours, nous sommes au verset 15 là, j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. L'Éternel, ici, veut apporter une nouvelle chose, veut faire rentrer Jérusalem, le peuple de Jérusalem dans un nouveau départ, veut établir les choses de façon différente avec eux. Et il dit, dans d'autres temps, oui, votre travail n'était pas productif, tout était bouché, j'avais fermé toutes les possibilités. Mais cette fois-ci, j'ai envie de faire autrement. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que moi je hais. Amen. Et il leur dit encore, ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois et le jeûne du dixième mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fait de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix.